Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Noël Alouzi Touka Bambi.
Vital Kamerhe est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a été voté avec 371 voix sur 407 votants. D'autres membres de ce bureau élus hier aussi sont Jean-Claude Tulumbay, Christophe Mbosso, Jacques Joly, Dominique Munongo, Chimène Polipoli et Grace Nehene. Au moins 2 personnes ont été tuées, 3 autres grièvement blessées dans une nouvelle attaque des hommes armés Mobondo. Dans la nuit de mardi à hier, mercredi, au village Ngamwimi, dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa, le bourgmestre de Maluku alerte sur le risque de perturbation du trafic sur la route nationale numéro 1 à quelques kilomètres de là. Le coordonnateur du projet Prise est notre invité. Depuis Kananga au Kasaï Central, Deon Sunzu est en mission de supervision des programmes de construction des ouvrages dans l'espace Kasaï. Bonjour à tous. Vital Kamerhe est élu depuis hier mercredi avec 371 voix sur 407 votants, président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Union pour la Nation, UNC, partenaire de première heure de Félix-Antoine Tshisekedi, va désormais présider au destin de cette chambre basse du Parlement. Dans le même bureau, il aura à travailler avec Jean-Claude Tshilumbay, Christophe Mbosso, Jacques Joly, Dominique Munongo, Chimène Polipoli et Grace Nehene, tous élus aussi hier mercredi. Prenant la parole après son installation, le nouveau président de l'Assemblée nationale a invité les députés nationaux à beaucoup de sacrifices pour travailler en faveur du peuple congolais qui a tant souffert. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kisifindangoy.
Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Nous allons ensemble transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité et contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique.
Restons à Kinshasa. Autonomiser les organisations de la société civile de la RDC en matière de bonne gouvernance et de gestion financière, c'est l'objectif de l'atelier organisé hier à Kinshasa par l'Union européenne à l'intention des organisations de la société civile. Parmi ces organisations figurent par exemple Regard Citoyen, une mission électorale de la RDC. Paul Kabeya, porte-parole de Regard Citoyen, explique qu'au cours de cette rencontre, il a été question d'apprendre à ces organisations des conditionnalités et des préalables dans la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne. Paul Kabeya le dit à Paul Matendo.
L'objectif de cet atelier, c'est d'autonomiser nos organisations. Vous savez, en matière de gouvernance, en matière de mise en œuvre des projets, il y a des préalables, il y a des lignes directrices, il y a des conditionnalités, il y a des procédures qu'il faut respecter pour assurer la transparence, assurer la bonne gestion des ressources. Et c'est ce qui a motivé Dairi à nous accompagner dans ce sens pour faire de nos organisations de meilleurs partenaires dans les partenariats qu'il faudra avoir avec l'Union européenne et bien entendu d'autres partenaires.
Une nouvelle attaque des Mobondo dans la nuit de mardi à ce mercredi au village Ngambwimi dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa. Au moins 2 personnes ont été tuées par ces hommes armés et 3 autres grièvement blessées. Le bourgmestre de Maluku qui livre l'information précise que le groupe armé Mobondo est toujours actif dans la région malgré un petit temps d'accalmie. Alexis Mampamundoni alerte sur le risque de perturbation du trafic sur la route nationale numéro 1 située à quelques kilomètres de là. Il plaide pour le renforcement des dispositifs dispositif sécuritaire pour protéger la population. Ces propos sont choisis par Irène Mbomaluzolo.
Il y a un village là qui a été attaqué par les assaillants Mobondo. Le village Ngambwimi. Ngambwimi, c'est à 17 km de Mongata. Et ce matin, quand mes services sont descendus sur place pour faire les investigations, ils ont trouvé des corps que les assaillants ont tués. L'autre, même on leur a coupé même les bras. Et il y a 3 blessés qui sont menés à l'hôpital de Mankana. Cette situation-là n'était pas étouffée comme disent les autres là. Donc moi, je suivais toujours avec beaucoup d'attention cette situation, sauf que il n'y avait pas eu des attaques comme ce qui s'est passé. Quand ils attaquent maintenant les gens dans des villages comme ça, vous ne voyez pas qu'il y a un risque pour les trafiquants. J'ai parlé avec le ministre provincial de l'Intérieur ce matin. Je lui ai écrit, nous attendons la réaction de prendre des mesures pour sécuriser la population, et c'est bien.
Tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement de paix qui vont violer ces prescrits subiront la rigueur de la loi. Déclaration du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant hier devant la presse à son arrivée à Bounia en Ituri. Pour Sami Adubango, la population de l'Ituri aspire à une paix durable pour le développement de cette province. Et cette paix est possible si seulement les fils et filles de l'Ituri intériorisent la culture de vivre ensemble dans l'unité, l'amour et la cohésion. Un extrait des propos de Sami Adubango est choisi par Martial Kizabiamongo.
Les groupes armés se sont engagés sincèrement devant Dieu, devant le président de la République, devant le peuple itourien meurtri qu'eux-mêmes tuent, et aussi devant leur propre conscience, qui ne vaut plus revenir en dehors l'Ituri. La situation est itourienne. La solution, dans un premier temps, elle est itourienne. Qu'il pleuve, qu'il neige, nos communautés respectives, et aussi qu'elles nous accompagnent parce qu'ils ont une part de responsabilité dans les tueries de l'Ituri. Eux-mêmes ont signé la cessation des hostilités. Eux-mêmes nous ont demandé, en cas de dérapage, qu'on les frappe. Eux-mêmes ont dit, en cas de dérapage, qu'ils soient déférés devant la justice militaire. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nos vaillants militaires sont là. Je ne pense pas s'il faut maintenant aller dans des théories. Il faut appliquer la loi des forces publiques. Nous ne voulons plus voir le sang d'un Ituriens encore couler.
Dans son agenda, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant va se rendre également à Dialassiga, dans le territoire de Mahagi, où des hommes armés non identifiés ont multiplié des exactions contre la population. Dans le territoire de Lubero, le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation se félicite du bon déroulement du projet de réinsertion des ex-combattants dans son entité. Il s'agit des travaux de haute intensité de main-d'œuvre qui consistent en la réhabilitation et entretien des avenues dans les zones de retour de ces ex-combattants. Houston Kambale Kinyali, chef d'antenne du PDDRCS Butembo Lubero, explique au micro d'André Kitenge.
C'est depuis le 13 avril qu'on avait commencé avec les activités de la réinsertion des ex-combattants. Et cela, selon les différents axes des zones de retour. Pour le moment, ils sont à pleine activité dans le cadre de leurs encadrés. Ils sont en train de faire les activités qu'on appelle les travaux IMO, donc les activités à haute intensité de la main-d'œuvre. Par rapport aux bénéficiaires, nous avons au moins 160 membres de la communauté qui sont en train de participer à ces activités dans la ville de Butembo. Et pour toutes les axes, nous sommes dans plus de 800 membres qui sont en train de bénéficier aux activités des travaux IMO. Ces activités se déroulent très très bien parce que nous avons quand même un partenaire de confiance qui est en train de faire la mise en œuvre. C'est le partenaire ex-EPR dans le cadre des fonds de cohérence sociale. C'est comme ça que nous sommes en train vraiment de travailler. C'est un consortium qui est avec ex-EPR, ASP et AAP qui sont en train vraiment de mener à bon les activités.
Au Nord Kivu, le gouverneur de province a mis en place depuis environ un mois une fiche d'identification des agriculteurs, principalement de ceux produisant du cacao dans le territoire de Beni. C'est dans l'objectif de lutter contre le vol des cacao, l'un des facteurs à la base de l'insécurité dans la zone. Cependant, cette opération d'identification semble ne pas être bien accueillie par de nombreux agriculteurs du quartier Sayo de la ville de Beni. Ces derniers considèrent cette mesure comme une autre forme de tracasserie. Marc Marofimbo était sur le terrain. Voici son reportage.
Cette fiche d'identification est déposée à tout agriculteur du quartier Sayo dans la commune de Moulekera de la ville de Beni où on trouve plusieurs champs de cacao et de bananes platan. La fiche est également imposée aux propriétaires des étangs piscicoles et de cruches d'abeilles. C'est face au vol récurrent de ces produits par des hommes armés que l'autorité provinciale a mis en place cette mesure d'identification des agriculteurs et acheteurs, principalement du cacao dans la zone. Une mesure qui passe cependant mal auprès de certains agriculteurs qui crient à une autre forme de tracasserie en plus des tueries des ADF dont ils sont victimes. Pour le chef du quartier Sayo, il s'agit d'une réglementation dans le secteur qui permet de distinguer les vrais cultivateurs des voleurs des produits champêtres qui sèment la désolation dans cette entité. Flavien Mouindounzanzou, chef du quartier Sayo.
Beaucoup de problèmes étaient enregistrés autour des cacao, les voleurs n'en parlent pas. Raison pour laquelle le gouverneur a réglementé cette filière de cacao. Ceci va nous permettre de distinguer les voleurs et les propriétaires du champ.
Signalons que dans son arrêté, le gouverneur de province autorise la récolte de cacao pour 6 jours par mois. Tout colis de cacao aperçu en dehors de cette date sera confisqué pour des raisons d'enquête, précise les documents. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Toujours en économie, élaboration d'une fiche technique d'enregistrement des coopératives agricoles à RDC. Cette question est au centre d'un atelier organisé par le ministère du Développement Rural de mardi à ce jeudi à Kinshasa. Ces assises réunissent des experts venus de toutes les provinces de la RDC. Son objectif est de faciliter aux coopératives agricoles l'accès au financement de leurs projets conçus selon le droit OADA. C'est ce qu'explique François Robota, ministre du Développement Rural, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. François Robota est au micro de Paul Matendo.
Je suis donc venu lancer cette activité qui consiste à un atelier des outils qui doivent accompagner le processus d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. C'est une réforme très très importante. À la lumière de RCCM, registre de commerce et de crédit immobilier, c'est un registre qui va aider les sociétés coopératives à avoir accès à beaucoup de moyens d'accompagnement pour booster l'économie rurale au niveau de nos milieux ruraux. Voilà l'importance de cette réforme. Nous allons nous attendre à ce que tous les outils qui doivent accompagner ce processus soient harmonisés et également aussi donner à certaines coopératives qui sont présentes ici de l'occasion de se faire enregistrer, de se faire immatriculer dans le registre national.
Dans la province de la Tchopo, Tropenbos RDC appelle la population en général, les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'environnement ainsi que le gouvernement à lutter contre le changement climatique. Le coordonnateur de cette organisation a lancé cet appel hier en marge de la commémoration le 22 mai de la Journée internationale de la lumière. Au terme d'un séminaire organisé à l'Alliance française de Kisangani sur les causes du changement climatique, ses conséquences ainsi que les moyens d'adaptation, le professeur Alphonse Maïndo a fait 2 recommandations principales à la population, notamment la prise de conscience et l'action. Il est au micro de Jacques Moukonkole.
Si on prend conscience que le changement climatique, c'est le fait de nos actions à nous en tant qu'humains et que nous pouvons donc changer tout ça. Alors en ce moment, si on reconnaît d'abord, c'est que je recommande à la population de reconnaître et d'admettre d'abord qu'il y a changement climatique lié à nos activités à nous, les humains. Et à partir de là, on peut passer à la seconde recommandation qui est donc, c'est de dire, une fois que nous avons pris conscience que nous devons faire quelque chose, alors agissons maintenant et demain, il sera trop tard. Il faut agir aujourd'hui et maintenant et ici. Chacun là où il se retrouve. Et moi, je suis dans mon quartier. Au lieu d'allumer un grand générateur dont je ne veux pas consommer toute l'énergie, au lieu de gaspiller l'eau, au lieu de couper les arbres. Comme on voit ici, on coupe les arbres en désordre. Et même les arbres fruitiers, on les coupe, on les incinère pour produire des briques cuites. Donc ça, ce sont des gestes qu'il ne faut jamais faire. Il faut au contraire augmenter la quantité des arbres que nous avons. Et nous verrons que nous allons avoir un air beaucoup plus frais, plus respirable. Ça, c'est à l'échelle individuelle qu'on pourrait faire ça. Mais aussi à l'échelle de la ville. Pourquoi la ville ne peut pas aménager des espaces? On en a fait dans les différentes villes. Maintenant, on veut tout lotir. Même là où il y avait des arbres, on veut tout couper. Après, nous nous plaignons qu'il n'y a pas assez d'oxygène, on respire mal. Mais justement, il faut qu'on agisse.
Actualité internationale.
Au moins 9 personnes sont mortes et 50 autres ont été blessées hier soir au Mexique lorsqu'un chapiteau s'est effondré sur la scène d'un meeting lors de la campagne pour les élections présidentielles, ont annoncé les autorités. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef d'une junte militaire depuis 3 ans au Tchad, prête serment ce jeudi en tant que président élu le 6 mai dans un scrutin contesté par l'opposition.
L'invité.
Le coordonnateur du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prise est notre invité. En mission de supervision des programmes de construction des ouvrages dans le Kasaï, Deon Sunzu a visité différentes infrastructures construites et équipées dans la première phase du projet. Il s'agit des centres de santé, des écoles, des points d'adduction d'eau potable et des marchés. Saluant le fait que ces ouvrages aident la communauté, Deon Sunzu rappelle aux bénéficiaires la nécessité de veiller surtout sur leur gestion et entretien. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Deo Sunzu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a des infrastructures qui ont été construites, de marchés, Tambo-Saint-Bernard, Zapo-Zapo, ailleurs. Alors, vous avez fait une ronde. Quelle évaluation faites-vous de ce qui a été fait dans le cadre de prise?
Notre mission aujourd'hui, d'abord, c'est de voir comment est-ce que ces ouvrages sont gérés et aussi s'assurer que la prise en main lors de la remise de certains de ces ouvrages aux autorités provinciales peut vraiment assurer la pérennisation. Pour les écoles, nous avons constaté qu'il n'y a pas de problème. Pour les centres de santé, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais seulement, aujourd'hui, il faudrait qu'on mette bien dans l'esprit de ceux qui nous suivent que ces ouvrages appartiennent bel et bien à la communauté, notamment à la province. Il en est de même aussi pour la gestion. Le projet, c'est un projet qui est limité dans les temps. Donc, un projet, normalement, c'est 5 ans d'exécution et les ouvrages sont remis aux bénéficiaires qui est la province via certains services, notamment décentralisés et d'autres déconcentrés. Aujourd'hui, pour les addictions en eau potable, c'est vrai, vous avez vu, nous avons fait des addictions en eau potable, des châteaux d'eau qui s'étend sur une moyenne de 3 à 14 kilomètres pour certains, avec de bonnes fontaines et de branchements particuliers.
Revenons sur certaines infrastructures, notamment les écoles. Comment la gestion est faite? Est-ce que vous êtes satisfait?
Pour les écoles, nous avons réhabilité, s'il faut dire, des écoles qui avaient des numéros qui existaient déjà. C'était des structures en paille, en rameau. Il y a des écoles qu'on a construites à Zapo-Zapo, nous avons construit à Luandanda, Tambo-Saint-Bernard, Touboulukou, Mikalaï, bien d'autres sites aussi dans la province. Ça, c'est pour les écoles et en même temps des centres de santé aussi. Lorsque nous avions remis ces ouvrages pimpant neuf aux bénéficiaires et à la province, ces ouvrages ont fonctionné ou continuent à fonctionner. Mais seulement, il faut dire une chose, les entretiens de ces ouvrages. À certains endroits, nous avons trouvé que les panneaux solaires n'y étaient presque plus en plein fonctionnement, les batteries qui sont foutues et on attend à ce que le projet prise vienne réfectionner. Non, c'est pas le cas. Nous avions à son temps recruter une firme qui était censée ou qui a fait la communication, l'information, l'éducation, donc la sensibilisation des bénéficiaires, notamment sur la gestion, la pérennisation de ces ouvrages. Quand je dis que tout marche bien pour nous, c'est que les élèves sont pas dans des pailles, ils sont dans un bâtiment à l'abri des intempéries. Maintenant, c'est des petits réglages, notamment des panneaux solaires, certaines portes qui il fallait juste fixer un clou, ça n'a pas été fait. Ça, ce sont des petites choses, notamment, qui sont, je pense, de la responsabilité des gestionnaires de ces ouvrages. Et là, ce n'est plus la responsabilité du projet prise. Mais d'une manière générale, nous avons constaté que ces ouvrages fonctionnent.
Il est de même pour les marchés, les forages.
Oui, pour les marchés, je voudrais quand même placer un point là-dessus. Ce sont des marchés que nous appelons des espaces à vivre. C'est-à-dire que ces espaces à vivre contiennent les étalages, donc les marchés, boutiques, pharmacies, abattoirs, aires de stockage, aires d'abattage et d'autres éléments, moulins, connexes qui sont rajoutés à cet espace à vivre ou au marché. Ces ouvrages ont été remis aux bénéficiaires, notamment à la province, via les autorités communales. Mais à certains points, comme Lambeau-Saint-Bernard, nous étions surpris que la population n'utilise pas ces marchés suite à un mot d'ordre qui a été donné par un chef coutumier de la place, estimant qu'il fasse peut-être une cérémonie coutumière et que les marchés devraient porter son nom. C'est vrai, ce n'est pas de nos prérogatives, notamment, de participer à la gestion de ces ouvrages. Nous nous sommes dit, pour trouver une solution, nous allons saisir l'autorité locale, notamment les gouverneurs des provinces, et ensemble avec les différentes autorités communales et administratives et coutumières, trouver une solution parce que cette population n'attend que ces ouvrages. Vous savez, ces marchés, la population l'occupait déjà et c'était de l'engouement. Mais après, vous revenez 2 ans après, on vous dit non, l'ouvrage, ils savent pas occuper parce que il y a eu un mot d'ordre et ça nous gêne et ça dérange le bailleur aussi parce que ce sont des ouvrages à un appui du gouvernement congolais par la Banque africaine de développement.
Alors, qu'est-ce qui va suivre dans la phase 2?
Alors, qu'est-ce qui est prévu? D'abord, le projet PRISE, lorsqu'il a commencé, c'est un projet d'exécution dans la zone centre de la RDC. Aujourd'hui, avec la phase 2, vu l'impact de ce que le projet PRISE a réalisé dans les grands Kasaï, le gouvernement congolais a estimé qu'il était important d'étendre les cercles de rayon d'action du projet PRISE par l'ajout de l'ancien grand Bandundu, c'est-à-dire la province de Kwilu, Kwango, Maïndombe. Nous avons maintenant la province de Maniema aussi et la province de Holomami. Donc, ça fait aujourd'hui dans l'actif 10 provinces dans lesquelles le projet PRISE va intervenir pour la phase 2. Alors, particulièrement dans la province du Kasaï central aujourd'hui, ce n'est qu'une continuité de interventions du projet PRISE.
Monsieur Deo Souzou, nous vous disons merci.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Billy Landry Betou. Merci de l'avoir suivi.